Écoutez Applause du groupe The Spinwires. C'est bien évidemment de la musique libre. The Spinwires est un groupe américain qui a été choisi par Sarah et dont vous pourrez entendre plusieurs morceaux tout au long de ce micro-rebelle hebdo. C'est du punk rock très dansant avec souvent des refrains ravageurs. The Spinwires nous rappelle des groupes comme Frank Ferdinand, Arctic Monkeys, voire même Offsprings. Aujourd'hui, Micro-Rebelle Hebdo vous donne rendez-vous avec ses rubriques habituelles, l'actualité de ces derniers jours et l'agenda des événements à venir. Nous vous proposons ensuite deux reportages. Le premier est consacré à la fête du secours catholique à Olin et le second, c'est la suite de nos chroniques kurdes. Ce Micro-Rebelle Hebdo a été préparé par Charlotte, Christophe, Jonathan, Laurie, Lucien, Michel, Nadine et Sarah. Sans plus attendre, place maintenant à l'actualité.
Bonjour tout le monde, ici Jonathan et je vais vous présenter l'actualité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour de chez nous lors de ces derniers jours? Eh bien, nous allons remonter jusqu'au vendredi 10 juin, car dans la soirée, une mobilisation contre la loi de travail El Khomri a eu lieu pendant le match de foot de l'Euro 2016, la France contre la Roumanie. Le match a été diffusé sur écran géant pour que lors de cette mobilisation, les militants et militantes puisse passer un moment convivial. Ce mouvement a été organisé devant la mairie de Lens par des professeurs. Les militants devaient faire un bulletin de vote, puis placer ce bulletin dans une urne. J'espère, et comme tout le monde, que la loi ne passera pas, car c'est nous, ouvriers, qui font tourner les usines et pas les patrons, et c'est nous aussi, le peuple français, qui fait vivre le pays, car nous sommes la France et pas l'État. Sur ce, je vous laisse sur une courte pause de 3 prises de son. Une présentation générale de cette soirée. Une interview d'un professeur de Béal, un prof de maths. Et pour finir, une militante qui venait juste de voter. A tout de suite.
Oui, bien voilà, nous sommes le soir du match France-Roumanie. Et je suis juste devant la fan zone à Lens, hein, juste devant la mairie de Lens, devant la fan zone. Il y a beaucoup de monde, hein, il est 18h30, mais il y a déjà beaucoup de monde, alors que le match sera retransmis seulement dans 2 heures. Sur cet espace qui donne sur les rues piétonnes de Lens, il y a également de nombreux supporters de l'équipe de Suisse et de l'équipe d'Albanie. Hein, on les croise devant les terrasses de bistrot. Ces supporters sont là puisque demain, le lendemain à Lens, hein, il y aura le match Suisse-Albanie. Et donc durant cette promenade autour de la fan zone, je constate qu'il y a une table. Hein, une table avec beaucoup de personnes qui sont agrippées autour et qui signent des bulletins de vote. Alors ce sont des enseignants du SNES, hein, de la FSU, qui procèdent à une votation citoyenne. Alors c'est cette votation citoyenne, hein, je vais me permettre d'en lire un extrait. Il s'agit de se prononcer pour ou contre le projet de loi travail. Et avec une question, faut-il aujourd'hui des droits nouveaux pour les salariés, jeunes, privés d'emploi et retraités? Donc une initiative du SNES, hein, de la FSU. Et je vais aller poser quelques questions aux organisateurs et aux différents participants de cette votation citoyenne. Eh bien justement, je suis avec Bastien, qui est un militant de la FSU. Alors Bastien, est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous présenter qui tu es? Bon, je présume que tu es enseignant, étant donné que tu es syndiqué au SNES FSU. Où est-ce que tu es enseignant? Qu'est-ce que tu enseignes? Et puis peut-être, dans un deuxième temps, qu'est-ce qui se passe ici, hein? J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens autour de cette table. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Bien, donc je suis Bastien Rier, je suis enseignant en mathématiques au lycée Béal à Lens. Je suis également représentant S1 du SNES localement. Élu aussi au conseil académique du SNES. Ici, aujourd'hui, on a organisé la votation citoyenne sur la loi travail, c'est-à-dire, étant donné que le peuple n'a pas pu réellement s'exprimer sur cette loi, la FSU avec d'autres, avec l'intersyndicale d'ailleurs, avec la CGT, FO, les syndicats étudiants, etc., ont décidé d'organiser une votation citoyenne pour donner la parole aux gens sur cette loi travail. Et donc, le vote aujourd'hui porte sur le retrait ou pas de cette loi, dite loi El Khomri.
Alors quand même, Bastien, c'est un peu gonflé, non, de faire une telle initiative militante un soir de France-Roumanie devant la fan zone. La plupart des gens qui sont là sont pour encourager l'équipe de France ou l'équipe de Roumanie d'ailleurs. Alors comment ça se passe? Les gens, ils viennent, ils participent, les discussions sont possibles?
Les gens sont assez réceptifs, surtout les jeunes d'ailleurs. Le fait de se mettre devant la fan zone, c'est le but, c'est de toucher le plus de monde possible, tout simplement. Et que les revendications ne s'arrêtent pas parce que l'euro commence, même si c'est un très bel événement et qu'on ne remet pas en cause ça. Les revendications continuent pendant tout l'euro. Et le but, c'est vraiment de toucher le plus grand nombre vraiment la population dans son cœur. Donc c'est pour ça aussi que le choix de cette fan zone a été fait aujourd'hui. Globalement, la population reçoit bien le vote. On a eu beaucoup de votes aujourd'hui. Les urnes sont quasiment pleines. Donc je pense que c'est un succès aujourd'hui.
Alors les discussions, parce que je pense que Les militantes et les militants de ton syndicat ont des discussions avec les gens qui viennent voter. Elles tournent autour de quoi ? D'abord, est-ce que les discussions sont possibles, hein ? Parce que c'est pas forcément évident, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'animation ici. Est-ce que les discussions sont possibles ? Et puis de quoi on parle ? Est-ce que il y a des expressions sur cette loi travail ? Enfin, quel est le ressenti ?
Il y a des expressions sur la loi travail. Après, on rentre pas forcément dans de longs débats. Hein, le fait que ça soit un lieu de passage ne permet pas forcément d'avoir de longs débats, mais les gens expriment souvent leur mécontentement envers cette loi, envers le gouvernement en général d'ailleurs. On a eu beaucoup de remarques sur le gouvernement et sur aussi le fait que les gens vont ou ne vont plus certainement d'ailleurs voter pour des gouvernements PS dans les années à venir, quoi.
Très bien, peut-être une dernière question, Bastien. Qu'est-ce que ça va devenir, tous ces bulletins de vote ? Quel est l'objectif finalement ?
Donc ça sera remonté à l'intersyndical d'ici la fin du mois. Le but est de montrer au gouvernement que le peuple s'exprime et s'exprime contre cette loi, puisque à aucun moment le peuple n'a vraiment eu l'occasion de s'exprimer sur cette loi, puisque ce n'était pas dans les propositions de campagne du candidat Hollande. Ça n'a pas été vraiment débattu à l'Assemblée, puisqu'il y a eu l'utilisation du 49-3. Et donc, c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour vraiment faire exprimer le peuple sur cette loi. Et donc, ça sera remonté en intersyndical et les résultats seront publiés partout, via les syndicats, les représentants politiques et sur toutes les plateformes habituelles de communication.
Bien, Bastien, je te remercie et puis bonne continuation dans les luttes.
Merci.
Et bien maintenant, je suis avec Christine. Alors Christine vient tout juste d'aller poser son bulletin de vote dans l'urne proposée par les syndicats et les militants du SNES-FSU. Alors Christine, je voulais tout d'abord vous demander, comment est-ce que ça s'est passé ? Est-ce que vous avez été abordée ? Comment ? Est-ce que c'est vous qui êtes venue ?
Ben écoutez, j'ai été abordée très chaleureusement. Après, pour approfondir un peu sur le sujet, des votes. Écoutez, je trouve que c'est une très bonne initiative parce qu'effectivement, au point de vue du travail, c'est vrai que ça serait un petit peu dommage qu'on nous efface nos droits, hein, tout simplement. On a déjà parfois des droits assez restreints sur certaines entreprises. Alors ça serait dommage qu'en plus on nous en rajoute. Voilà.
Très bien. Finalement, qu'est-ce que vous pensez d'une telle initiative ? Alors, on est un soir de France-Roumanie, hein, on est à la fin de Zone de Lens. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'animation, beaucoup de musique. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'initiative quand même revendicative ? Un soir d'animation comme celle-là, est-ce que ça vous semble une bonne occasion, une bonne opportunité ?
Complètement, complètement. Il faut justement profiter de ce rassemblement pour pouvoir montrer à toutes les personnes qui sont présentes qu'effectivement, c'est aussi dans notre droit et qu'il faut parfois justement se battre pour ce qu'on a droit.
Une dernière question, Christine, qui n'a rien à voir. Votre pronostic pour ce soir, le match de foot ?
Ben écoutez, j'espère bien qu'on va gagner.
Eh bien, merci Christine et bonne continuation.
Merci bien.
Eh bien, me revoilà pour vous présenter le prochain événement qui s'est déroulé à Mont-Saint-Bérol le samedi 11 juin. En effet, le 11 juin, il y a eu la Foire aux Installes organisée par Chris21. La Foire aux Installes, qu'est-ce que c'est ? C'est une journée dédiée au dépannage des ordinateurs et à l'installation de logiciels libres, comme Linux. Cet événement a lieu tous les mois sauf les vacances d'été, un mois sur deux à Mont-Saint-Bérol et l'autre mois à Liévin. Malheureusement, il n'y aura aucune prise de son auditive à cause de la qualité du son, mais il y avait deux habitants qui voulaient installer et être initiés sur Linux. En espérant que la prochaine interview de la Foire aux Installes puisse être de meilleure qualité pour vous en faire part des appréciations émises par les habitants. Passons maintenant aux derniers événements pour clôturer cette actualité. Cet événement parle d'une personne qui est poursuivie par la justice pour avoir donné son point de vue lors de l'attentat du vendredi 13 lors d'une émission appelée La Grande Chatch sur Radio Condu le 23 février 2016. Cette personne est appelée Jean-Marc Rouillon. Il a déjà fait 25 ans de prison et il est interdit dans plusieurs départements et de passer des frontières et de s'exprimer sur certains sujets, mais il reste pour autant un homme porteur de parole et un homme libre. Un soutien s'est mobilisé pour aider Jean-Marc Rouillon. En demandant l'abandon des poursuites, il passera au tribunal le vendredi 24 juin. Je vous laisse donc une lecture d'un texte pour soutenir Jean-Marc Couillon. J'espère que cette actualité vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.
L'État vient de déposer une plainte contre Jean-Marc Rouillant pour apologie de terrorisme. Que s'est-il passé ? Jean-Marc Rouillant a été interviewé dans l'émission La Grande Tchatch sur Radio Grenouille le 23 février 2016. Dans cette émission, Jean-Marc Rouillant évoque les attentats du 13 novembre à Paris en indiquant « On peut dire plein de choses sur eux, qu'on est absolument contre les idées réactionnaires, que c'était idiot de faire ça, mais pas que ce sont des gamins lâches. » C'est à la suite de cette déclaration que la justice française a ouvert une enquête pour apologie du terrorisme. Que peut-on en penser ? Dans cette interview, Jean-Marc Rouillant refuse le cadre de la discussion tel qu'il lui a été proposé par l'intervieweur. En clair, quand on est contre Daesh, cela signifie que l'on est du côté de la France démocratique, de son État, de ses institutions. Jean-Marc Rouillant n'a pas voulu tomber dans ce piège. Tout en étant critique quant à la politique de Daesh, il est tout autant critique à l'égard de la France. Jean-Marc Rouillant le dit clairement. Il y a d'un côté un État islamique conduit par une bourgeoisie sunnite criminelle ultra-réactionnaire qui s'appelle Daesh, et de l'autre côté, il y a un État français qui s'est construit lors de la Troisième République sur deux événements. Premièrement, le massacre de la Commune, avec 30 à 40 000 communards et communardes assassinés, et deuxièmement, le fait colonial. À ce sujet, Jean-Marc Rouillant témoigne « Ce qui s'est passé en Algérie m'empêchera toute ma vie de chanter la Marseillaise et de porter le bleu-blanc-rouge ». Ainsi, Jean-Marc Rouillant refuse la grand-messe consensuelle qu'on nous propose, avec d'un côté Daesh, qui représenterait les forces du mal, et de l'autre la France, représentant les forces du bien. C'est ce qui lui vaut les poursuites dont il est l'objet aujourd'hui. De nombreuses personnes et organisations réagissent et demandent l'abandon de ces poursuites. Jean-Marc Rouillant a été enfermé durant 25 ans. Cet enfermement lui laisse la maladie en héritage. Il lui est interdit de s'exprimer sur certains sujets. Il est interdit de séjour dans 38 départements. Il lui est interdit de passer des frontières. Malgré tout cela, Jean-Marc Rouillant reste porteur d'une parole libre et entend agir en homme libre. C'est cette liberté que l'État souhaite condamner. De notre côté, réagissons. Soutenons Jean-Marc Rouillant. Rejoignons le collectif pour l'abandon des poursuites contre Jean-Marc Rouillant. Le procès contre Jean-Marc Rouillant a été reporté au 24 juin. De nombreuses organisations et particuliers ont déjà signé un appel en sa faveur. Il faut, avant le procès, amplifier ce mouvement de soutien. We'll be right back.
C'était le deuxième morceau de notre groupe du jour, The Spinwires. Ce morceau s'intitule « Girls Like You », des filles comme toi. Je laisse sans plus attendre la parole à Sarah pour l'agenda des événements à venir.
Au programme de notre agenda cette semaine. Dernier appel pour l'exposition sur le football et l'exclusion à Hochy-les-Mines. N'oubliez pas qu'elle se déroule pendant les horaires d'ouverture habituels de la bibliothèque Louis-Aragon d'Hochy-les-Mines, 104 rue Humblot, et est consacrée à ce monde où tout tourne autour du ballon, qui lutte contre l'exclusion, phénomène de rejet d'une personne au sein d'un groupe. Alors elle se termine le 25 juin, donc pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, je vous conseille vivement d'y aller maintenant. Le 30 juin à 20h au LAG aura lieu un ciné-débat sur le film Les Fagors et les Brandt, réalisé en 2007 par Anne Argus. Fagor et Brandt sont tous deux des entreprises d'électroménager, mais une chose les différencie, Fagor est une coopérative, pardon, alors que Brandt, non. Une coopérative signifie que cette entreprise appartient aux salariés, et c'est ce qui a posé problème lors de cette fusion. En effet, Fagor avait décidé de racheter Brandt, ce qui avait causé de nombreux problèmes aussi bien au niveau logistique qu'au niveau humain. La problématique de cette soirée sera donc, est-ce que la fusion d'entreprises se passe différemment dans le monde coopératif ? Nous espérons que notre invitée, Anne Argus, la réalisatrice, pourra nous donner des réponses lors du débat auquel vous êtes bien sûr tous conviés à participer.
Le samedi 2 juillet, deux belles initiatives sont organisées à Liévin, deux belles initiatives festives, ouvertes à tous et à toutes. Alors il y a d'abord le barbecue organisé par notre équipe de micro-rebelles. Je vais vous en parler un peu plus tard. Et puis le repas partagé, organisé par le LAG, le lieu autogéré, à Liévin. Je vais commencer par évoquer ce dernier événement, le repas partagé, organisé par le LAG. Le LAG invite toutes ses amies. C'est un repas qui est ouvert à toutes et à tous. L'objectif, c'est de se retrouver pour passer une bonne soirée ensemble, autour d'un bon repas, donc au LAG, au 23 avenue Jean Jaurès à Liévin. Et d'échanger autour des projets du LAG, autour des activités prévues, autour de ce qui a été réalisé cette année. Donc c'est à 19h au LAG, au 23 avenue Jean Jaurès. Si possible, il est demandé à tous les participantes et participants de passer dans l'après-midi avec ces ingrédients pour préparer le repas ensemble. Donc je rappelle, c'est le 2 juillet, 19h le repas, et à partir de 14h dans l'après-midi, on vient avec ces ingrédients pour la préparation.
Les lundis du planning, ça continue le 4 juillet avec pour thème cette fois-ci le consentement sous toutes ses formes. L'atelier prendra place dans les locaux du planning à Lens de 18h à 21h et pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, je vous la donne. C'est à la Maison des Associations, 45 rue François Gauthier à Lens. Alors pour plus de convivialité, le planning met en place une auberge espagnole. Donc pour les gourmands, tâchez de ramener quelque chose à grignoter. Une autre info concernant le planning, qui met en place une kermesse en partenariat avec Culture et Liberté le 12 juillet à Grande Résidence à Lens. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations, voici le numéro du planning, 03 21 28 43 25. Ce numéro est bien sûr disponible sur internet lorsqu'on recherche Planning Familial 62. Le 2 juillet se déroule la 10e édition de la Nuit des Livres à Eskelbeck, qui aura cette année pour parrain Franck Tillier. Alors comme d'habitude, vous pourrez y retrouver des libraires, des éditeurs, des auteurs, des associations et beaucoup d'autres personnes qui seront ravies de vous faire partager leur passion. La Mouette Enragée organise un nouveau débat sur l'aménagement capitaliste de l'espace, une logique de classe et de ségrégation sociale. Ce débat prendra place dans la salle Cassard de la bibliothèque municipale de Boulogne-sur-Mer, le vendredi 24 juin à partir de 20h30.
Bien, je vous le disais précédemment, notre équipe de micro-rebelles est particulièrement heureuse de vous proposer un bon moment à passer ensemble. Donc ce sera le samedi 2 juillet à partir de 13h. L'idée, c'est passer un moment autour d'un barbecue. L'idée, c'est que chacun et chacune apporte à manger et à boire. Et puis on se retrouve et puis on mange ensemble, on boit ensemble, avec y compris d'autres activités. Alors, notre équipe souhaite s'adresser à toutes celles et ceux qui ont participé à nos émissions, donc les membres d'associations, les membres de collectifs, les amis de micro-rebelles, mais aussi à l'ensemble de nos auditrices et nos auditeurs, et enfin les habitants du territoire, nos voisins et voisines, à nous, micro-rebelles. Qu'est-ce qu'on compte faire ce samedi 2 juillet ? Premièrement, on voudrait vous présenter notre équipe, qui on est, d'où on vient, pourquoi on a choisi de s'investir au sein de Micro-Rebelles. Vous présenter nos projets, donc l'année scolaire se termine, Micro-Rebelles va bientôt interrompre ses émissions pour les vacances. Mais on a des projets pour la rentrée et on voudrait au moins en discuter avec vous. On voudrait également vous proposer de visiter nos locaux. Et puis surtout écouter vos idées, vos propositions, vos remarques, hein, vos critiques même, hein, et puis vos encouragements. Et surtout, passer un bon moment ensemble avec chacune et chacun d'entre vous. Donc c'est le samedi 2 juillet à 13h. Et Micro Rebelle se trouve au 199 rue Émile Zola à Liévin. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez nous envoyer un courriel contact@microrebelle.fr et puis consulter d'autres informations sur notre site http://microrebelle.fr. A très bientôt au samedi 2 juillet.
C'est maintenant Michel qui va vous présenter notre premier reportage sur la fête du Secours catholique à Olin.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ce nouveau reportage consacré à la fête du Secours catholique qui s'est déroulée le 4 juin à Olin. Pour l'occasion, Micro Rebelle avait installé un stand où il a pu présenter sa radio, ses émissions et initier quelques personnes à la création d'un micro-trottoir. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le micro-trottoir autour de la question « Comment avez-vous connu le Secours catholique ?» qui a été réalisé par Charlotte, Laurie et Christophe. Bonne écoute.
Voilà, j'ai connu le Secours catholique il y a 10 ans de ça. J'ai été opérée du dos et une dame du Secours catholique, j'étais là-bas, m'a aidée pendant mon opération pour garder ma maison. Même au niveau financièrement, ils m'ont aidée. On peut avoir une écoute là-bas et on est parti en vacances il y a 5 ans de ça avec le Secours catholique. Ils avaient fait pendant 15 jours du côté de Paris. On est parti. Tout le repas, tout compris. C'était convivial, chaleureux. On se retrouvait avec d'autres personnes qu'on connaissait pas. C'était un grand groupe. Voilà.
Il y a très très longtemps, par mon mari qui en faisait partie, il y a 40 ans.
Bonjour, je m'appelle Dominique et j'ai connu le Secours catholique par l'intermédiaire d'une dame qui est venue me chercher à la maison pour faire des activités manuelles. À l'époque, je faisais des cartes en 3 dimensions. Je leur ai appris à faire les cartes en 3 dimensions et je suis encore en train de leur faire faire des activités manuelles. Tous les lundis de 2h à 4h à Beuvry.
Alors, de par les gens de ma famille qui en font partie, mais aussi là, aujourd'hui, on est là, on a été invités par le Secours catholique. Nous sommes une association de les grands enfants qui, notre but, c'est de promouvoir les jeux de société modernes. Donc aujourd'hui, dans le thème du Secours catholique, c'est le rassemblement, l'entraide. On a pour thème les jeux de société coopératifs, c'est-à-dire qu'on joue tous ensemble pour gagner et on gagne tous ensemble ou on perd tous ensemble. Voilà, et il n'y a pas de compétition.
Bah, de bouche à oreille, on en entend parler comme ça partout un petit peu, à la télé.
Par l'intermédiaire de la paroisse, c'est aussi parce qu'il y avait une équipe du Secours catholique dans mon village.
J'ai connu le Secours catholique il y a longtemps, plus de 25 ans. Voilà, j'ai connu le Secours catholique parce que j'étais membre d'un mouvement d'action catholique qui s'appelait à l'époque Action catholique des enfants et après Jeunesse ouvrière chrétienne. Et ces mouvements étaient eux-mêmes partenaires du Secours catholique pour faire des actions avec des jeunes. Étant jeune moi-même, c'est comme ça que j'ai connu le Secours catholique.
Alors la première fois que j'ai connu le Secours catholique, on avait fait des ateliers de Noël et on avait fait des petits bonhommes de neige avec des boules de polystyrène à donner aux gens qui venaient nous voir au repas de Noël. Ouais.
Alors moi j'ai connu le Secours catholique pour la première fois, c'est quand sur Neu-les-Mines, il y a eu un atelier qui s'est ouvert et malheureusement ça n'a pas duré parce qu'ils accueillaient les gens et c'était 2 jeunes qui étaient là, venus bénévolement et puis ça s'est fermé et j'ai plus entendu parler du Secours catholique.
Alors pour ma part, j'ai connu le secours catholique grâce au secours populaire quand j'y étais en stage. Donc on guidait les personnes vers le secours populaire, le secours catholique ou les Restos du Cœur en fonction de leurs besoins.
Ce reportage touche à sa fin. Je vous rappelle que c'était un micro-trottoir réalisé lors de la fête du Secours catholique à Olin le 4 juin, où Micro Rebelle a initié trois personnes, Charlotte, Laurie et Christophe, bénévoles au Secours catholique, et qui ont bien voulu se prendre au jeu du reporter pendant une après-midi. La musique pendant ce reportage est une musique de Louis Armstrong, comme Sweet Papa. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain reportage. Au revoir.
Aujourd'hui, c'est notre cinquième chronique kurde et la dernière d'une première série. Nous allons en effet faire un break, mais nous reviendrons assurément sur la situation au Kurdistan, notamment syrien, car ce qui s'y passe est très prometteur. Aujourd'hui, nous aborderons tout d'abord la politique de terreur au Kurdistan turc, appelé Bakour, puis nous évoquerons quelques nouvelles du Kurdistan iranien, ou Rojavat. Çolçola pasure, teş teş da pasure, ha çolçola pasure, teş teş da pasure, hem hatır kabure, hem hatır kabure, tüm çavim kıl kahuşta, çavim kıl kahuşta, tüm destim serfellure, destim serfellure.
L'actualité au Kurdistan, turc, au Bakour, c'est effectivement la politique de terreur que mène l'État turc. Le président Erdogan relance sa guerre civile contre le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et la population kurde, avec son lot de morts et de destructions. Les couvre-feux et attaques par l'armée turque, se poursuivent depuis plus de deux mois à Nusaybin, dans la province de Mardin, à Sirnak et à Jever. Les forces de l'État, n'arrivant toujours pas à rentrer dans les quartiers défendus par les jeunes, bombardent depuis l'extérieur. À Nusaybin, des images de fumée blanche suite à des bombardements prises par des journalistes du groupe No More Silence révèlent l'usage de bombes au phosphore. Dans la ville de Sirnak, où vivent 60 000 personnes, 10 000 membres des forces spéciales de la police et la gendarmerie sont venus en renfort de celles déjà présentes. À Jever, l'État turc a officiellement annoncé la fin des opérations, mais le couvre-feu, qui court depuis plus de 40 jours, est maintenu et les zones rurales ont été bombardées. Par ailleurs, les attaques par l'armée reprennent à Semdinli, province de Hakkari, et à Silopi, au Sirnak, dans les zones rurales de Dersim, de Litché, de Van, etc., etc. Selon un rapport publié par le HDP, donc on rappelle que le HDP c'est le Parti démocratique des peuples, un parti parlementaire qui regroupe de nombreuses organisations révolutionnaires en Turquie. Donc selon un rapport publié par le HDP, l'AKP, autre explication, c'est autre rappel, c'est le parti au pouvoir en Turquie, c'est le parti de Erdogan. L'AKP aurait donc décrété 63 couvre-feux et assiégé 22 villes pour faire un total de 817 jours.
et ces chiffres continuent à augmenter. Le rapport affirme qu'un total de 868 civils ont été tués, dont 282 à Sizeré, et notamment 177 dans les sous-sols de la ville. Avec ses couvre-feux, destruction et emprisonnement, l'État turc continue sa guerre contre le mouvement kurde, et il s'est muni par ailleurs d'un nouvel arsenal juridique, la déchéance de nationalité. Il s'agit de cibler les Kurdes et autres oppositions pour les priver de leur nationalité, sous prétexte de lutter contre le terrorisme. Avec évidemment une définition très élastique du terrorisme. Il suffit en effet d'émettre n'importe quelle position critique, en particulier en ce qui concerne les opérations militaires en cours contre les Kurdes dans le sud-est de la Turquie, pour être taxé de soutien au terrorisme. Dans ce contexte, Erdogan a ainsi poussé à lever immédiatement l'impunité parlementaire des députés du HDP qu'il accuse d'être en lien avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Encore aujourd'hui, au lieu d'une citoyenneté égale et civique, les Kurdes ont deux options devant eux, soit être assimilés par le système, soit devenir des traîtres et des terroristes aux yeux de l'État. Jusqu'à présent, les Kurdes n'ont jamais profité du droit d'une citoyenneté complète et ont été poussés de force à se convertir à la turquicité. Mais Zout Yegen, professeur à l'université Seyir à Istanbul, l'exprime ainsi. Le concept de citoyenneté, sous-entendu dans la Constitution, définit les Kurdes vivant en Turquie comme des Turcs potentiels ou des pseudo-citoyens. Ce sont donc des citoyens dont on peut facilement déchoir la citoyenneté. Sous la présidence d'Erdogan, la Turquie est en train de virer vers un système de plus en plus autoritaire, voire totalitaire, où les droits fondamentaux, comme la liberté d'expression, la liberté de la presse ou le droit à la citoyenneté, sont arrachés à ceux qui ne veulent pas être assimilés par la turquicité, mais aussi à ceux qui refusent de tenir une loyauté aveugle envers l'élite dirigeante.
Cette nouvelle guerre déclarée aux Kurdes par l'État turc est à mettre en regard avec la victoire de Kobané dont nous avons parlé dans nos précédentes chroniques kurdes. Le printemps arabe en Syrie a abouti à une guerre civile sur tout le territoire, à l'exception de la région nord, principalement kurde, le Rojava, où se situe Kobané. Cette région a su prendre son émancipation. On parle de révolution du Rojava en référence à ce processus autogestionnaire promis par le PYD, parti proche du PKK en Syrie. Erdogan et son gouvernement n'ont pas supporté de voir grandir un tel mouvement de l'autre côté de la frontière et ont pris conscience que l'organisation politique qui était en train de se mettre en place sur son territoire à travers les municipalités du BDP, parti majoritaire dans la plupart des villes kurdes, devenait une menace pour l'État. En effet, le projet politique est en train de s'instaurer dans le Kurdistan Nord en Turquie et dans le Kurdistan Ouest en Syrie, réside en une délocalisation du pouvoir centriste de l'État vers les municipalités qui coordonnent les assemblées de quartiers et de villages et qui favorisent la solidarité entre celles-ci. C'est ce qui est appelé par le mouvement kurde l'autonomie démocratique, inspirée du municipalisme libertaire de Murray Bookchin. Ce projet politique prône donc l'autogestion du bas vers le haut, coordonnée par les structures confédérales, mais aussi l'égalité des genres portée par le mouvement des femmes libres, ainsi qu'une économie écologique et coopérative. Ce projet révolutionnaire ne peut que faire peur aux États, vu qu'il est diamétralement opposé à leurs intérêts. Et c'est bien pour cela que l'État turc, extrêmement nationaliste, a de nouveau déclaré la guerre aux Kurdes. Il s'agit donc d'une contre-révolution dirigée vers les populations kurdes qui sont en train de prendre leur autonomie de fait. Depuis l'été 2015, la guerre déclarée contre les Kurdes n'a fait qu'augmenter en intensité, faisant entrevoir un génocide. Les bombardements des positions des guérillas dans les montagnes, dans le Kurdistan, en Turquie et en Irak, ne cessent depuis le mois d'août 2015. Mais sans doute le plus grave est le massacre de plus de 700 personnes dans les villes kurdes, y compris de très nombreux bébés, enfants et personnes âgées. We'll be right back.
كيبو سيراني كيبو سيراني شحكار وبوطاني شحكار وبوطاني جموش وجواني جموش وجواني توتب هاضن ديلاني توتب هاضن ديلاني
مربوري سرحاتي بوكاري عماتي مربوري سرحاتي بوكاري عماتي
On va maintenant aborder, au travers de l'exemple de la ville de Cizre, une autre tentative de l'État turc qui consiste à changer la population des villes, ni plus ni moins une tentative de gentrification. Au-delà des tueries, le gouvernement entreprend de raser les villes kurdes, notamment les villes rebelles, celles qui ont déclaré leur autonomie, et remplacer leur population par des populations favorables au gouvernement turc AKP. Le gouvernement a mis en place un programme pour éliminer de la carte les villes terroristes, je cite un peu le programme du gouvernement. Puis est occupé depuis 8 mois à passer le rouleau compresseur sur toutes les villes kurdes qui ont déclaré leur autonomie face à l'État. Mises sous couvre-feu 24 heures sur 24, ces villes et ces quartiers sont assiégés. Il est impossible d'y accéder ou d'en ressortir. Elles sont coupées de toute communication, privées d'eau et d'électricité. Ce sont des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent en état de siège et attaqués par les forces de police et de l'armée. Et ce, durant des semaines ou des mois, allant jusqu'à 100 jours à Sour, le centre-ville historique de Ahmed. Plusieurs témoignages indiquent par exemple, je cite, « La résistance de Sour a été encore plus longue que celle de la commune de Paris, qui a duré 2 mois. » Depuis décembre, l'État attaquait 3 villes simultanément, Cizre, Sour et Silopi. Après plus de 3 mois, l'État a déclaré, je cite, « l'opération est finie », ce qui n'implique que l'arrêt de l'artillerie lourde, alors que l'occupation policière et militaire et le harcèlement quotidien perdurent. Le programme de l'État est clair. Il s'agit de vider ces villes de Kurdes, de détruire les quartiers en résistance, de reconstruire des barres d'immeubles à leur place et faire venir une population non kurde ou en tout cas favorable au gouvernement. Les pelleteuses font leur travail dans les quartiers en ruines de Sour et de Cizre. Elles détruisent les seuls bâtiments qui sont restés debout et enlèvent des tas de gravats pour niveler le sol et faire place aux nouveaux bâtiments. En effet, la quasi-totalité des parcelles des quartiers dévastés de Sour ainsi que de 8 autres districts viennent d'être expropriées par une procédure d'urgence qui empêche tout recours et vont être cédées au TEKI, l'organisme privé mais allié de l'État, qui fait de la spéculation immobilière et qui construit des quartiers entiers de barres d'immeubles.
L'État turc n'arrive pourtant pas à prendre le contrôle de ces villes. Les groupes d'autodéfense des quartiers, organisés par les jeunes femmes et les hommes, se battant avec de simples fusils contre la deuxième armée la plus puissante de l'OTAN. Face à la détermination de ces jeunes et au soutien de tout le quartier, les forces de l'État ne réussissent pas à pénétrer dans ces quartiers en lutte. Ils bombardent depuis leurs véhicules blindés, de là où ils arrivent, et parfois depuis les collines environnantes ou encore depuis les hélicoptères. L'État aura mis 3 mois à venir à bout de la résistance à Cizre et à Sur. Les groupes d'autodéfense ont résisté jusqu'au bout, jusqu'aux derniers survivants et survivantes. Quant au reste de la population qui s'était réfugiée en grande partie dans les quartiers ou villes voisines, une grande partie d'entre eux revient en nombre chez elles. Certes, pour découvrir qu'il ne leur reste plus rien, que leur maison est sous les décombres. Mais rien ne leur fait baisser les bras. Et le mouvement kurde s'organise pour reconstruire ces quartiers. Et l'Europe dans tout ça? Elle garde le silence et finance l'État turc. Les États européens ont accepté le chantage d'Erdogan et ont acheté leur silence en échange de la fermeture de la frontière turque avec l'Europe aux personnes réfugiées. Les médias de masse suivent au pied de la lettre les consignes des gouvernements européens et ne relayent que les attentats ou certaines ripostes contre l'armée. Les Kurdes se demandent où vont les 6 milliards d'euros versés par l'Union européenne à l'État turc, soi-disant pour accueillir les réfugiés. Ce qui s'entend couramment là-bas, c'est que cet argent finance Daesh ainsi que la guerre contre les Kurdes. Cette complicité mafieuse des États qui vendent leur image d'État démocratique est d'autant plus dangereuse lorsque l'on pense à l'alliance de l'AKP avec Daesh et aux références qu'a fait Erdogan au régime nazi en tant que modèle efficace. Pour arriver à ses fins, l'Europe accepte de traiter avec un pays qui bafoue ouvertement les libertés individuelles et collectives les plus fondamentales. Un pays qui est en guerre contre ses propres peuples et accepte de lui confier le destin des réfugiés. En même temps que l'Union européenne s'apprête à payer des milliards d'euros à la Turquie comme prix du tri et de la mise en camp des migrants, elle couvre les violences exercées sur les opposants en observant un silence coupable sur les exactions du régime turc. Chacun connaît les bombardements et massacres subis par les Kurdes. Chacun sait maintenant que la presse d'opposition est totalement muselée et que l'épuration des universités et de la magistrature sont en cours. Et l'Union européenne donne 6 milliards d'euros à un État qui est connu pour armer les djihadistes tout en continuant à diffuser partout l'amalgame écœurant entre terrorisme et migration. Voici maintenant des nouvelles de la lutte et de la répression des Kurdes du Rojilat. Le Rojilat est la partie est de du Kurdistan, c'est-à-dire le Kurdistan iranien. Peu d'informations circulent sur l'Iran, et en particulier sur la situation des populations, des mouvements et résistances kurdes dans ce pays. Les Kurdes d'Iran ont une très longue histoire de mouvements armés contre le régime iranien. Cependant, à cause de la répression féroce du gouvernement de la République islamique de l'Iran contre toute opposition politique, les combats avaient majoritairement stoppé depuis une dizaine d'années. Pendant que des dirigeants européens concluent des accords sur le nucléaire avec le président iranien Hassan Rouhani, le nombre d'exécutions au Kurdistan continue d'augmenter depuis l'élection de ce dernier. Les fonds qui n'ont cessé d'arriver en masse depuis la levée partielle du boycott n'ont servi qu'à financer les guerres civiles en Syrie et à Bahreïn, ainsi qu'à renforcer la répression interne alors que les populations souffrent toujours plus de la crise économique et des politiques de sous-développement programmées. Dans un rapport publié en avril 2015, l'État iranien avait lui-même reconnu avoir emprisonné 12 000 Kurdes iraniens au cours de l'année. Le gouvernement de Rouhani n'hésite pas à recourir à la peine de mort contre les activistes politiques de tout horizon, y compris les Kurdes. La cour d'Urmiyeh, ville située au Rojilat, au bord du lac portant le même nom, vient de prononcer la peine capitale contre Hassan Faradji. Celui-ci était en prison depuis 5 ans sans avoir été jugé et son lieu de détention avait été tenu secret. Sa famille est restée sans nouvelles jusqu'à son arrivée à la prison centrale d'Urmiyeh après 14 mois de torture. Actuellement, plus de 20 prisonniers politiques kurdes attendent l'exécution de leur peine de mort dans les geôles du régime. La plupart ont été condamnés Selon l'article de la Constitution qui définit tout acte d'opposition au régime comme un acte contre Dieu et qui est couramment nommé l'article des Kurdes. Récemment, ce sont des travailleurs de plusieurs villes situées sur la frontière irakienne qui se sont mis en grève. Les habitantes et habitants subissent un sous-développement programmé depuis des décennies. En effet, le commerce transfrontalier, souvent illégal, est devenu et reste encore la seule source de revenus possible pour les populations de ces régions. Or, celles-ci sont particulièrement touchées par la répression, l'armée iranienne assassinant librement sur toute la frontière. Le 18 avril à Banna, les passeurs, les commerçants et les ouvriers ont décidé de fermer le marché et toutes les boutiques pour manifester leur colère. Les nouvelles de la grève se sont répandues rapidement et les travailleurs de Serdach et Marijuan sont venus rejoindre leur mouvement. C'est alors dans ce contexte qu'à l'occasion du Nouvel An kurde, que le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran a annoncé officiellement la reprise de la lutte armée et l'attaque des bases militaires. Il semble que les partis d'opposition kurdes iraniens qui étaient basés en Irak avaient déjà commencé à envoyer leur Peshmerga, c'est le nom qui est donné aux combattants kurdes. Suite à cette annonce, le gouvernement iranien a immédiatement répondu par un déploiement militaire massif. Depuis, des chars défilent dans les rues. Le ministère des Affaires étrangères tente également de faire pression sur le gouvernement régional du Kurdistan d'Irak afin que celui-ci entrave lui-même la circulation des combattantes et combattants Rojilati.
چارهلمه داش چارهلمه داز بازار آمد داز بازار آمد داز تو گوندگر یاد داز گوندگر یاد داز ها گرمین کت باجر داز گرمین کت باجر داز
بر بوری سر هدی بوگانی آمدی
Eh bien, cette diffusion de Micro-Rebelle Hebdo se termine. Merci de nous avoir écoutés. Rappelons que vous pouvez écouter et réécouter Micro-Rebelle Hebdo sur notre site microrebelle.fr et également sur Radio PFM 99.9 les mercredis à 22h, les jeudis à 17h et les dimanches à 9h. Précisons enfin qu'il vous est tout à fait possible de participer à l'aventure Micro-Rebelle et de rejoindre notre équipe composée uniquement de bénévoles. Vous pourrez notamment intervenir au sein de nos émissions, par exemple pour traiter d'un événement ou encore pour présenter votre association, votre collectif militant. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, prendre en charge un créneau régulier sur une thématique qui vous tient à cœur. Dans tous les cas, vous disposerez du matériel nécessaire et nous vous formerons à son utilisation. Le plus simple pour nous contacter est de nous envoyer un courrier électronique à l'adresse contact@microrebelle.fr. contact@micro au pluriel tiré du 6 rebelle au pluriel .fr. Et enfin, avant de rendre l'antenne, Micro-Rebelle souhaite vous solliciter financièrement. Nous sommes une radio indépendante, sans pub, sans subvention. Vos contributions permettront d'améliorer notre équipement matériel et notre présence Internet. Le plus simple est de nous envoyer un chèque à l'ordre de Micro-Rebelle à l'adresse suivante. Micro-Rebelle, Le Lag, LAG, 23 avenue Jean Jaurès, 62 800 Liévin. Et maintenant, un petit rappel, car on vous en a déjà parlé. Nous vous attendons samedi 2 juillet pour le barbecue de Micro Rebelle. Venez rencontrer notre équipe, échanger sur ses projets et surtout passer un bon moment ensemble. C'est à 13h dans nos locaux 199 rue Émile Zola à Liévin. Le plan et les moyens d'accès sont sur notre site microrebelle.fr. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez venir avec un plat à partager ou des choses à mettre sur le barbecue ou bien encore des boissons. Ceci dit, vous pouvez aussi arriver les mains vides, vous n'en serez pas moins le ou la bienvenue. À très bientôt donc. Nous terminons cette émission avec le groupe que nous a choisi Sarah, The Spinwires.
Got no place to hide. I think I might start to ignite. 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 I got a riot to incite, and I think I might